Précédemment, dans l'épisode 1, dans la grande histoire, Joachim règne sur Juda au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a été, comme on dit, parachuté à son poste par le pharaon d'Égypte en 609. Et il s'est avéré être un roi pas très... Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Aussi, son peuple a suivi le chef, il a suivi l'exemple de ce grand roi, et il s'est fourvoyé dans la corruption, dans l'immoralité, il a perdu tous ses repères. Voilà qu'un jour, ce Joachim, ce grand roi, gonfle ses pectoraux, se sent fort, alors que l'empire de Babylone prend son essor, envahit petit à petit les territoires qui environnent Juda, jusqu'à envahir Juda lui-même. Et vous savez, quand vous êtes assujetti à un empire, en principe, ou une république même des fois, il faut payer un impôt. Et c'est ce que doit faire Joachim, il doit payer un impôt à Babylone. Jusqu'au jour où ses pectoraux gonflent encore plus, il se sent encore plus fort, et il refuse de payer le tribut à Babylone. Et ce qui devait arriver arriva, Jérusalem, Juda ont été attaqués, la population déportée en 597. Voilà, ça c'est la grande histoire, l'épopée de Babylone. Et alors, dans la petite histoire, ce que nous avons vu la semaine passée, dans la petite histoire, celle d'un dialogue entre un prophète d'un petit pays, Juda, et son Dieu, avec des questions assez terribles, des questions parfois même audacieuses adressées à Dieu. Pourquoi ? Pourquoi gardes-tu silence quand il attend la justice ? Et jusqu'à quand ? Qu'est-ce que tu attends, Seigneur, pour intervenir ? Il est temps. Et Dieu de lui répondre, « Ne t'inquiète pas, cher Habacuc, je vais agir. Je vais envoyer l'Empire du côté obscur de la force. » Envahir Juda et enlever le mal en enlevant la population qui commet ce mal. Mais vous imaginez bien qu'Habacuc n'est pas très satisfait. Alors il questionne de nouveau Dieu en lui disant « C'est bien que tu interviennes, Seigneur, mais n'y aurait-il pas une façon un peu plus juste que de faire envahir notre pays, déporter notre population et surtout par un empire aussi mauvais que les Babyloniens ?» Et nous en étions restés là, à cette question, parole un peu audacieuse d'Habacuc adressée à son Dieu. Et nous en étions restés à cette question, mais qu'est-ce que va répondre Dieu à son prophète, à ces questions quelque peu limites ? Alors je vous propose de poursuivre la suite de cette fresque, saga d'été historico-spirituelle. D'abord, on va revenir dans la grande histoire, et on va ensuite revenir dans la petite histoire. La grande histoire, celle de Babylone, Babylone la belle, qui s'enorgueillit, qui grandit, qui pousse, qui fait des conquêtes les unes après les autres pour construire et construire et construire encore des jardins, des palais, des maisons. C'est extraordinaire. Babylone se développe. Même les briques qui construisent ces édifices portent la gloire du roi Nabucodonosor. Tout est merveilleux pour Babylone. Sauf que, en 539, un autre empire, l'empire médo-perse, va envahir l'empire babylonien et raser la belle ville de Babylone. Ça, c'est la grande histoire. Et je voudrais vous inviter maintenant à suivre avec moi la petite histoire, la toute petite histoire. On reprend le dialogue entre Habacuc et son Dieu. Voici ce que nous lisons Habacuc au chapitre 2, à partir du verset 1. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. L'Éternel répondit. Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux, et il ne réussira pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié, car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira :
quel malheur pour vous ! Vous entassez des biens qui ne sont pas à vous. Jusqu'à quand ? Vos dettes sont de plus en plus importantes. Ceux qui vous ont prêté de l'argent arriveront tout d'un coup. Ils se réveilleront et vous feront trembler. Ils vous voleront à leur tour. Vous pillez beaucoup de peuples. Alors les peuples qui restent vous pilleront de la même façon. En effet, vous répandez le sang, vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants. Quel malheur pour vous ! Vous gardez pour vos parents des biens obtenus de façon malhonnête. Cela vous permet d'avoir une bonne situation pour éviter d'être touché par le malheur. Vos projets couvriront vos parents de honte. En détruisant de nombreux peuples, vous vous détruisez vous-même. Même les pierres des murs crieront pour vous accuser, et les bois qui soutiennent la maison leur répondront. Quel malheur pour vous ! Vous construisez et développez vos villes par des assassinats et par l'injustice. C'est pourquoi les peuples se fatiguent pour du feu. Les populations se donnent du mal pour rien. Est-ce que tout cela ne vient pas du Seigneur de l'univers ? Oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur. Elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Quel malheur pour vous ! Vous donnez à boire aux autres une boisson dangereuse comme du poison. Vous voulez qu'ils deviennent ivres pour les voir tout nus. Mais vous, vous serez couverts de honte et non d'honneur. Buvez à votre tour et montrez-vous tout nus. Le Seigneur vous obligera à boire la coupe de sa colère, et votre honneur se changera en honte. Oui, la violence commise contre le Liban se répandra chez vous. Vous avez tué des animaux, alors des animaux vous feront trembler de peur. Tout cela arrivera parce que vous répandez le sang, parce que vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants. À quoi sert de fabriquer des faux dieux ? Ce sont seulement des statues en métal qui font croire à des choses fausses. C'est un artisan qui les a fabriquées, et elles ne parlent pas. Alors pourquoi cet artisan met-il sa confiance en elles ? Quel malheur pour vous ! Vous dites à un morceau de bois, « Réveille-toi ! » Vous dites à une statue en pierre qui ne parle pas, « Arrête de dormir !» Pourtant, ils ne peuvent rien vous apprendre. C'est vrai, ces statues sont recouvertes d'or et d'argent, mais il n'y a aucun souffle de vie en elles.
L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Prions. Notre Dieu et Père, ta parole est la vérité. Qu'elle nous édifie maintenant, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise par l'œuvre de ton esprit. Amen. Parole pas très facile, ni à lire ni à entendre, n'est-ce pas ? Des malheurs. Alors ce que je vous propose, un peu comme la dernière fois, c'est de jouer au téléspectateur. On va juste observer ce que nous dit le texte. On va rester sur notre fauteuil, bien confortablement assis, et observer ce que Dieu dit à Habacuc. Après, il nous appartiendra, une fois que la télé sera éteinte, d'en tirer quelques pistes de réflexion. Commençons donc par le commencement, par ce prophète Habacuc, un prophète aux aguets. Habacuc se tient prêt, vous avez vu, il monte sur sa tour de garde et regarde au loin, prêt à entendre, prêt à voir ce que Dieu lui donnera d'entendre et ce que Dieu lui donnera de voir. Il va rester là, prêt, disponible, à écouter et à voir. comme un guetteur de ce qu'il entendra, de ce qu'il verra, il aura vraisemblablement deux possibilités, deux messages à annoncer à son peuple. Soit tous aux abris, soit c'est super, le salut arrive, notre roi merveilleux arrive pour nous sauver. Il se tient prêt. Et c'est ensuite Dieu qui prend l'initiative. Alors que dans tout le chapitre 1, c'était Habacuc qui prenait l'initiative de la parole, dans le chapitre 2, c'est Dieu qui va s'adresser à son prophète. Et il va lui dire d'écrire ce qui va venir, pour que les générations, les unes après les autres, dont nous-mêmes, puissions lire ce que Dieu a dit. Le graver même, sur des tablettes, pas sur des iPads, mais sur des tablettes, pour que ça reste sur des générations et des générations. Et le Seigneur lui dit que c'est une parole qui est sûre. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraie. Pourquoi ? Parce qu'elle vient du Dieu vivant. C'est donc une parole sûre qui va venir. Et de cette façon, Dieu est en train de répondre au pourquoi d'Habacuc du chapitre 1. Tous ces pourquoi qui sont revenus comme un refrain. Quant au jusqu'à quand ? Jusqu'à quand qui reviennent dans le chapitre 1, Dieu répond aussi, mais à sa façon, comme il l'a fait dans le chapitre 1. Il ne donne pas de date, il dit ceci, « Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Le règne de Dieu, règne de paix et d'harmonie, viendra, c'est sûr. Quand ? Patiente, dit Dieu à son prophète. Patiente. Mon temps n'est pas ton temps. Et tout comme le temps était propice pour utiliser Babylone pour punir Juda du mal commis, il viendra un temps où le règne de Dieu, règne de paix, règne de justice sera établi de façon définitive. En attendant, dans les ténèbres que tu vis, Habacuc, patiente. Patiente, avec cette lumière qui jaillit au fond. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas faire un discours politique en disant « Je te promets qu'un jour, ça ira mieux. » Il va donner petit indice de ce qui va se passer dans cette grande histoire que nous avons évoquée. De la fin malheureuse d'un empire du côté obscur. Je ne sais pas si on peut voir, Lise, les... Voilà. La fin malheureuse de l'Empire babylonien. Mauvaise nouvelle. Dieu a une mauvaise et une bonne nouvelle. Elle est mauvaise pour l'Empire de Babylone et bonne pour Habacuc et pour Juda. Et cette mauvaise nouvelle prend la forme de 5 malheurs. Assez difficile à lire, assez difficile à entendre. Mais ce qui semble rassembler ces malheurs, et ce que je vous propose, c'est cette métaphore de la construction. Une construction à la numéro bis. Vous connaissez ce personnage d'Astérix qui construit tout de travers. Voici ce que dit cette métaphore. La première caractéristique de cette construction de l'Empire babylonien, c'est que les promoteurs ont un appétit sans limite. Et des chefs de chantier complètement ivres. Ça commence mal. Le verset 5 décrit les Babyloniens comme des conquérants qui ouvrent très grand la bouche et qui n'arrivent pas à se rassasier, qui conquièrent pays après pays, mais qui n'arrivent pas à s'arrêter. Le texte hébreu traditionnel dit, au lieu de la richesse décevra, dit que le vin est traître. Les Babyloniens sont comme grisés. Vous savez, parfois, les personnes qui sont un peu enivrées donnent l'impression d'être les maîtres du monde, se sentent invincibles et sont prêts à faire n'importe quoi. C'est un peu ça que dit Dieu des Babyloniens. Ils construisent de travers. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils n'en peuvent plus. Ils continuent de s'engloutir et de s'engloutir. Et leurs chefs de chantier sont complètement ivres. Alors imaginez, qu'est-ce que ça peut donner comme plan de construction ? Deuxième point, ils ont des projets ambitieux et pharaoniques. Ils veulent construire une maison, une dynastie, comme un palais flambant neuf, un palais royal immense. Des projets démesurés, des constructions ambitieuses, des constructions qui sont en sécurité, là-haut, comme un nid d'aigle. Rien ne peut nous atteindre de là où nous serons. Troisième caractéristique, des financements occultes. Entre parenthèses, vous avez remarqué combien ce récit est de la pure science-fiction, n'est-ce pas ? Des financements occultes. Quand on veut construire quelque chose, on a nos promoteurs à l'apéritif féroce, des chefs de chantier un peu ivres, on a les plans sur la table, il nous reste à trouver des fonds. Et ici, pour les Babyloniens, les fonds sont assez vite trouvés, hein. Extorsion, abus de pouvoir, usurpation, et j'en passe. Pure science-fiction qui ne s'est jamais reproduite dans notre histoire. Quatrième caractéristique, des plans de construction dévoyés. La violence et le sang pour fondation. Les Chaldéens ont bâti leur empire avec les dépouilles des pays vaincus. Les peuples et les territoires conquis sont transformés en pierres de murailles ou en poutres dans la charpente de leur construction. Ils utilisent de la main-d'œuvre exploitée pour rien. Les nations s'éreintent, les corvées, la fatigue, les coups de fouet, les sévices, tout est là. Tout est tordu dans cette construction. Ils construisent des palais, des beaux jardins, mais tout est tordu dans ce qu'ils construisent. Ils utilisent même, et c'est ça le paroxysme de l'histoire, ils utilisent même ces richesses pour se construire des belles statues. Des belles statues sans vie, des statues qui restent silencieuses, alors même que l'on crie dessus. Mais voilà, si tout est tordu, il y a de l'espérance au milieu de cette construction tordue. Les choses vont s'inverser, dit Dieu. Les choses vont s'inverser. Et en réalité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de jouer avec quelqu'un et de tirer sur un élastique. Vous tirez, tirez, tirez. Vous êtes face à cette personne, vous tirez, vous tirez. Soit l'élastique va craquer, c'est tout à fait possible, soit l'un de vous va lâcher. Et l'un ou l'autre aura très mal en recevant cet élastique. C'est ce que Dieu est en train de dire à Habacuc. Les Babyloniens ont tellement tiré, tiré, tiré sur la corde. Ils ont choisi des façons immorales de construire leurs bâtiments, leurs palais. Celui qui était l'outil, l'instrument du jugement de Dieu, est devenu indépendant, a voulu se défaire de cette autonomie, a voulu être autonome par rapport à celui qui était l'artisan de cette construction. Et comme on sait, comme vous le savez, bien mal acquis ne profite jamais. Alors les Babyloniens vont subir un retour de manivelle, un retour de bâton. Ce qu'ils ont fait va leur revenir en pleine figure. Paf ! Et il est parfois intéressant de constater, dans même notre actualité, combien parfois certaines personnes, certaines réalités, reçoivent la monnaie de leurs pièces, ou finalement chutent par là où ils avaient péché. Habacuc reçoit finalement une réponse très concrète. Judas va bientôt rentrer à la maison. L'empire babylonien va s'arrêter. Va s'arrêter. Parce qu'en réalité, en faisant le mal, les Babyloniens ne se sont pas rendus compte que c'était contre eux-mêmes qu'ils faisaient du mal. D'abord, parce qu'en faisant mal, du mal à son prochain, par solidarité, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Secondement, ils vont subir le jugement divin pour leurs actes et leurs méfaits. Et puis enfin, chers amis, ce n'est pas une nouvelle très récente, mais le mal que nous faisons nous déforme, nous défigure, nous détruit. Le mal qu'ils ont commis va revenir de pleine face vers les Babyloniens. Voilà une petite bonne nouvelle pour Habacuc. Dans la grande histoire, la petite histoire, cette petite relation entre Habacuc et Dieu donne un petit éclairci sur ce qui va venir. La fin de l'Empire de Babylone. C'est bien, c'est super, merci Seigneur, mais force est de constater, même si Babylone a été renversée, force est de constater qu'il y a encore des pourquoi. Il y a encore des pourquoi. Dieu promet de condamner le mal, il l'a fait avec Babylone, mais force est de constater que la spirale du mal n'est pas terminée. Et cette semaine, nous en avons encore eu un exemple, avec cet homme noir abattu par un policier, entraînant une autre spirale, cet homme noir qui va tuer d'autres policiers blancs. Il y a des pourquoi qui sont en partie résolus par ce que dit Dieu. Mais il en reste encore. Il en reste encore. Et Dieu ne va pas s'arrêter là. Il y a bien sûr des promesses qui concernent cette grande histoire de l'Empire de Babylone. Mais il y a aussi une réponse définitive de Dieu. Définitive. Et en réalité, par cette réponse définitive, les choses vont s'inverser finalement. Parce qu'on va se rendre compte que cette grande histoire de l'Empire de Babylone n'est en réalité qu'une petite, petite étape dans la petite histoire du salut, dans cette grande histoire, dans ce grand dessein de Dieu qui se décline depuis des siècles. Et c'est vrai qu'au milieu de ces cinq malheurs, si nous les lisons assez vite, parce qu'on n'a pas envie forcément de lire ce genre de livre, ce genre de mauvaises nouvelles, nous pourrions passer à côté de ce verset que j'ai envie de vous relire. Verset 14. « Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Je relis. « Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Promesse incroyable. C'est toute la terre qui un jour connaîtra, verra Dieu. Un jour, le côté obscur de la force laissera la nuit de côté pour laisser place à une merveilleuse lumière du Dieu Tout-Puissant qui se manifeste. Et en réalité, ce que Dieu est en train de faire avec Habacuc, c'est de l'inviter à un voyage dans le futur. Un voyage dans le temps. Il y aura un jour où tout le monde pourra voir Dieu. Un jour où tout le monde verra Dieu. Une manifestation grandiose et éloquente. Mais avant cela, il y aura un cri énorme qui resplendira, qui jaillira. Un cri dans la nuit, verset 20. Ce cri sera celui-là, que le monde entier fasse silence devant lui. Que le monde entier fasse silence devant lui. Le silence bruyant de la gloire de Dieu. Le silence aussi fracassant du jugement qui menace les méchants. Mais il y a aussi le silence de la reconnaissance, de la confiance des justes, qui se savent épargnés de ce jugement terrible. Et il y a aussi ce silence des méchants, ceux qui tremblent, ceux dont on entend juste les dents claquer alors que le Seigneur s'approche. L'aube arrive, dit Dieu à Habacuc. Je vais me lever, je vais me préparer pour rendre le jugement. Mais jusqu'à quand, Dieu? Quand aura lieu ce moment? Et le Seigneur lui dit, patiente, patiente. Mais en attendant, reçois deux paroles. Grave-les bien, pour que nous puissions les retenir, nous autres aussi. La première, c'est que le juste vivra par la foi, par la fermeté, selon les traductions. En attendant ce grand jour, vis dans la confiance. Vis dans la confiance en moi. Attache-toi à moi. Pour vivre de ce point A, de la situation Habacuc où tu es, jusqu'au point B, de ce moment où Dieu se manifestera pleinement, il n'y a qu'une chose. Une chose qui te permet de tenir, la foi. Reste attaché au mât pendant la tempête. Deuxième point, c'est la patience. La patience. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. Car il vient sûrement, il ne tardera pas. Le Seigneur chemine avec son prophète, pas après pas. Il y a, face à l'épreuve, le temps des pourquoi, des jusqu'à quand, légitime. Il y a le temps du lâcher-prise, de l'abandon confiant en Dieu. Un abandon parfois las, où on est épuisé. Mais un abandon qui se fonde sur les promesses de Dieu. Il y a aussi ce moment où Dieu se penche vers nous, relève notre tête pour voir plus loin, et nous inviter à la patience et à la persévérance, y compris lorsque les promesses de Dieu se font attendre, y compris lorsque Dieu semble si silencieux. Voilà donc tout ce que dit Dieu à Habacuc. Voici donc ce qu'il dit en quelques mots. Mais il reste une question. Je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que vous répondriez à Dieu s'il vous avait dit tout cela, d'un coup, aussi fortement? Une question reste en suspens. Quelle va être la réaction d'Habacuc à ces paroles divines? Quelle va être la réaction d'Habacuc à cette longue, longue réponse de Dieu? Réponse au prochain épisode. On éteint donc maintenant la télé. Maintenant que nous avons été simples observateurs de ce qui s'est passé entre Dieu et Habacuc, il nous reste à nous poser cette question: qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Soit on peut se lever pour aller boire un rafraîchissement parce qu'on est fatigué, soit il va nous rester quelque chose qui va nous déranger, quelques éléments à retenir. Ce que je vous propose, pour commencer, c'est de nous poser la question de savoir où est-ce qu'on en est dans tout ça? Où est-ce qu'on en est dans la chronologie de cette petite histoire devenue grande histoire? Où est-ce qu'on en est? Parce que Babylone a été détruite il y a bien, bien, bien des années. Est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce que le Seigneur vient? Où est-ce qu'il est déjà venu? En réalité, le Seigneur vient, mais il est déjà venu. Il établit son règne de paix, de justice par étapes. La première fut celle de Dieu venu il y a un peu plus que 2000 ans en Jésus-Christ. L'Éternel vient, dit Habacuc 2. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu. Venu pour nous permettre de nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour payer. Première étape. La seconde étape, celle de l'accomplissement plein et entier de ce règne de justice et de paix est encore à venir. Nous sommes comme Habacuc. Nous vivons entre le point A et le point B. Nous pouvons regarder en arrière à cette croix et nous pouvons aussi regarder en avant, aspirant à ce que le Seigneur vienne. Mais en attendant, il nous faut marcher. En attendant, il faut prendre notre route. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette première étape, cette venue du Christ, il y a quelque chose qui a changé. C'est que quelles que soient nos épreuves, quelles que soient les difficultés que nous vivons, quels que soient les silences dont nous avons besoin, le Seigneur est avec nous, au milieu de nous et en nous. Pourquoi ? Parce que le Christ a payé le prix de notre condamnation. Il a permis que nous puissions être libérés du poids de nos fautes et expérimenter l'amour de Dieu. Alors il reste bien des violences, bien des injustices dans ce monde. Et il nous reste certainement encore des pourquoi, des jusque-à quand qui trottent dans notre tête. Mais en attendant, le Seigneur est là. Et il nous invite à la confiance, à l'espérance, à la patience. Ce que nous croyons de Dieu, ce que nous lisons, nourrit en réalité notre espérance. Il y a parfois un décalage. Il y a parfois des moments où nous voudrions demander à Dieu de rendre des comptes sur ce que nous lisons dans la Bible, ses promesses et ce que nous vivons personnellement. Mais sachons une chose, c'est que cette espérance nourrit, fonde notre marche chrétienne. Je l'ai évoqué la semaine passée, notre grand garçon, Benjamin, a un trouble envahissant du développement. Il est autiste. Et une des particularités de l'autisme, dit-on, c'est d'avoir des difficultés à appréhender le monde spirituel ou les questions spirituelles. Et cette semaine, mon cher Benjamin m'a posé deux questions. Papa, comment ça se fait qu'il y a ce mal dans le monde ? Alors j'ai commencé à réfléchir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Et en fait, il me dit, en fait, papa, je pense que c'est parce que les gens veulent la même chose. Je dis oui, mais il y a un problème plus fondamental. C'est que le cœur de l'homme est tortueux. On n'est pas droit. Et il est reparti. Et nous rentrions mercredi d'une bonne partie de bowling, où il avait bien réussi pour la première fois à jouer au bowling. Et sur la route du retour, il me pose cette question. « Papa, est-ce qu'au paradis, est-ce que dans la vie éternelle, il y aura une fin ?» Et je lui dis non. Et il me répond « Mais ça va être long. » L'espérance, ne jamais baisser les bras face à l'adversité ou face à l'épreuve, ou face même à certaines réalités qui peuvent venir de plein fouet à notre visage. En attendant que le règne de Dieu vienne, choisissons, chers amis, la confiance. Choisissons aussi la patience, la persévérance avec Dieu. Choisissons aussi d'être aux aguets. Choisissons d'être comme Habacuc, de nous rendre silencieux, à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, de ce que Dieu veut répondre, même au cœur de nos épreuves les plus difficiles. Choisissons aussi d'être sentinelles, témoins de ce que Dieu fait et a fait dans notre vie. Un autre chapitre de notre saga vient de se terminer. Un autre va s'ouvrir. Un chapitre final où Dieu vient établir son règne après avoir mis fin au mal. Une question encore. Est-ce que j'entends cet appel de Dieu à faire partie du prochain chapitre? Est-ce que j'entends cette page qui commence à se tourner et qui invite à faire silence devant ce Dieu qui est venu et qui reviendra. Amen.